Flaubert a lui-même commenté dans une lettre à Louis Collet ce passage qui ressemble à un exercice d'amplification, hein, comme on en faisait au collège de son temps. « Je viens de sortir, écrit-il, d'une comparaison soutenue. »
C'est un morceau, comme on dit, ou du moins je le crois. Mais peut-être est-ce trop pompeux pour la couleur générale du livre. Et finalement, dans cette lettre, Flaubert qualifie le passage de poétique, avec un H. Le style haut ne convient pas dans un monde de la médiocrité. L'enflure dit ici simplement la désuétude du sublime. Le comparant n'arrive plus à se rattacher au comparé. Le langage laminoir surfait la réalité. Aussi bien Flaubert opte-t-il plus volontiers pour l'image grotesque dans Madame Bovary, une image qui redouble la prose du monde. Et cette fois, le comparant n'arrive plus à se détacher du comparé. L'image est alors à sa manière voyante, mais par son prosaïsme, par son excès de réel. Elle signifie une défaillance des belles lettres. Comment dire la médiocrité sans être attiré par elle? L'image est métonymique, empruntée à l'environnement physique et mental du personnage. Pour reprendre la problématique de Jacobson, ces images métonymiques signifient une impossible poésie qui retombe dans la prose. L'image métonymique avoue la limite de ce réalisme artiste que Flaubert rêve par ailleurs. Alors, cette tonalité grotesque est particulièrement sensible quand ces comparaisons métonymiques s'analysent à l'analyse psychologique de l'héroïne, non pas de comparse, comme dans les portraits de personnages secondaires, mais pour l'analyse psychologique de l'héroïne, parce qu'au langage habituel du moraliste se substituent des comparaisons matérielles. Guy en a cité une tout à l'heure avec le cœur comparé à la cire du parquet, les souliers de satin. J'en ai relevé quelques-unes dans l'exemplier. Si Charles l'avait voulu, cependant, il lui semblait qu'une abondance subite se serait détachée de son cœur, comme tombe la récolte d'un espalier quand on y porte la main. Ou encore, lorsqu'Emma connaît la désillusion du mariage, quand elle eut ainsi un peu battu le briquet sur son cœur, sans en faire jaillir une étincelle, ici la métaphore trivialise le cliché de la flamme amoureuse et réduit à sa juste proportion le feu dans la steppe de Russie de tout à l'heure. Ces comparaisons se multiplient autour de la figure d'Emma. J'en ai relevé encore deux dans la même page. Ce sont les citations 3 et 4 qui résonnent quand même étrangement. Lisons simplement la 4. Comme la plupart des gens, donc il s'agit d'Emma, comme la plupart des gens issus de campagnards, qui garde toujours à l'âme quelque chose de la callosité des mains paternelles. Les comparaisons métonymiques, c'est ainsi que je les interpréterai, disent finalement qu'on n'échappe pas à son milieu. Elles déboutent le bovarisme, cette faculté de se concevoir autre que l'on est, suivant la définition de Jules de Gautier. Donc l'image remet Emma à sa place. On rencontre cependant dans Madame Bovary un autre type d'image dont l'originalité a été soulignée par un romaniste allemand, Manfred Hart, que Nathalie Petitbon et moi-même avons traduit dans le dossier numéro 11 de la revue en ligne Flaubert, revue critique et génétique. Manfred Hart repère des comparaisons puisées dans un même registre. En l'occurrence, il s'agit du voyage maritime, et qui se font écho à distance. Elles sont distillées de place en place le long du récit. Elles accompagnent l'histoire d'Emma dans ses rêves et ses désillusions. Elles scandent son destin. À la différence des comparaisons grotesques de tout à l'heure, cette fois l'image possède un prestige culturel. C'est le topos de la Navigatio Vitae. Manfred Hart nomme comme premier représentant de ce procédé de l'image suivie Échille, qui, dans les sept contre Thèbes, utilise justement la métaphore du navire dans la tourmente en la modulant au fil de la pièce, tempête qui menace, navire en perdition, pilote salvateur. Shakespeare recourt aussi à l'image suivie dans ses tragédies. Cet intertexte reporte, pour ainsi dire, sa tonalité tragique sur le roman de Flaubert. L'image d'un naufrage annoncé poursuit le personnage depuis la désillusion du mariage où, comme les matelots en détresse, Emma scrute l'horizon, jusqu'à la serre de l'enterrement où le cercueil avançait par saccades continues comme une chaloupe qui tangue à chaque flot, en passant par l'épisode du fiacre, plus clos qu'un tombeau et ballotté comme un navire. Ce sont trois occurrences parmi d'autres, hein, Manfred Hart en relève une bonne quinzaine, qui donnent l'impression d'un destin, hein, même dans la scène du fiacre, qui devrait être peut-être une amorce d'un bonheur possible, la mort est déjà là. Hein, nous sommes dans une logique de la désagrégation d'une existence. Au milieu des images grotesques, l'image suivie à l'ombre d'Eschyle et de Shakespeare introduit un tragique petit bourgeois. Serait-ce cela le grotesque triste? Or, il est dans le roman une deuxième image suivie qui emblématise le destin d'Emma et qui, comme le navire, dit le désir de l'ailleurs. C'est l'image de l'oiseau, hein, que je voudrais analyser rapidement ce matin. Image prodiguée à l'époque romantique. Rossignol, alouette, pélican. Hein, il y a des rossignols dans les bosquets, dans les ouvrages qu'Emma a lus au couvent. Hein, ces volatiles sont nombreux et ils sont encore là à l'époque de Madame Bovary, si l'on pense aux contemplations, hein, où les oiseaux sont les voix de la nature, sont les messagers de la divinité. Mais dans le roman de Flaubert, les oiseaux ne chantent pas et ont du mal à voler comme l'albatros de Baudelaire. Une image se dévalorise. Bientôt, Lautréamont comparera la poésie à un vol des tourneaux. Le jour du mariage d'Emma, mauvais augure, les oiseaux s'enfuient à l'approche du cortège et de son ménétrier. Le bruit de l'instrument faisait partir de loin les petits oiseaux. Dans Madame Bovary, l'oiseau, effectivement, ne va pas tant se trouver dans le ciel normand qu'être d'abord une comparaison, comme l'indice d'un romantisme in absentia, vocable détaché du réel. Et toutes ces comparaisons se rattachent aux rêveries amoureuses d'Emma. Toutes expriment un désir d'affranchissement. Alors je voudrais simplement, là aussi, en choisir quelques-unes dans leur ordre d'apparition pour appréhender le trajet qu'elles dessinent à la manière du roman maritime analysé par Manfred Hart. On peut distinguer trois grands ensembles. Une première séquence où l'oiseau en mal d'envol au moment du mariage avec Charles et de l'amour platonique pour Léon I. Deuxième séquence, l'oiseau blessé lors de la relation adultère avec Rodolphe. Et troisième séquence, l'oiseau apathique au temps des retrouvailles avec Léon II. Première séquence, l'image apparaît d'abord quand Emma salue son mari partant au travail. C'est la citation numéro 5. Et elle continuait à lui parler d'en haut tout en arrachant avec sa bouche quelques bribes de fleurs ou de verdure qu'elle soufflait vers lui et qui, voltigeant, se soutenant, faisant dans l'air des demi-cercles comme un oiseau, allait, avant de tomber, s'accrocher au crin mal peigné de la vieille jument blanche immobile à la porte. Donc ici, la comparaison est simplement en passant. La phrase commence par décrire un geste amoureux gracieux, petite amorce lyrique, vite tempérée par le détail des crins mal peignés de la jument à la closule de la phrase, suivant un mouvement de retombée qu'affectionne l'ironie flaubertienne. Et de retombée, il s'agit d'ailleurs au sens propre, puisque le vol de la fleur oiseau n'est pas ascension, mais descente. Le désir d'exaltation chez l'héroïne se heurte à la loi de la pesanteur qui rappelle dans le monde des réalités positives. Et la rêverie insinuée par la comparaison, comme un oiseau, s'efface devant la logique métonymique, crin mal peigné de la vieille jument blanche immobile à la porte. Alors, ce potentiel symbolique va s'expliciter quand l'image de l'oiseau servira cette fois à l'analyse psychologique du personnage, alors que déjà gagne la désillusion du mariage. Citation numéro 6. Mais l'anxiété d'un état nouveau, ou peut-être l'irritation causée par la présence de cet homme, avait suffi à lui faire croire qu'elle possédait enfin cette passion merveilleuse qui jusqu'alors s'était tenue comme un grand oiseau au plumage rose, planant dans la splendeur des ciels poétiques. C'est la voix du narrateur, en principe, mais la comparaison finale apparaît comme un collage, comme une phrase poétique, à la façon d'un feu dans une steppe de Russie. Bachelard le dit, quand on commence à voir la couleur du plumage, c'est que le dynamisme du vol n'a pas réussi à vaincre le poids de la matière. La comparaison résonne comme une psychoanalogie bivocale, focalisée sur l'imaginaire d'Emma, tout accaparé par l'idée reçue de passion. Cet oiseau rare ne se rencontrera pas dans le ciel normand. Et à la place, bientôt, des pigeons. Emma songe à Léon, logé chez Monsieur Emma. C'est la citation numéro 7 qui va nous ramener aux comparaisons grotesques. Et ses pensées continuellement s'abattaient sur cette maison, comme les pigeons du Lion d'Or qui venaient tremper là dans les gouttières leurs pattes roses et leurs ailes blanches. Oui, c'est de nouveau donc une comparaison grotesque à fondement métonymique, alliant un comparé immatériel, les pensées, comme l'âme tout à l'heure, et un oiseau spécifié, trop concret, sans prestige en plus. On pourrait même entendre sa connotation attachée à la langue populaire, le pigeon, l'image d'un marché de dupes. Et Emma va être le pigeon de cette histoire. Disparu donc, l'oiseau à plumage rose. Simplement, comme pour relier à distance les deux images de la série, le rose, détail miniaturisé, se reporte sur les pattes des pigeons. Deuxième séquence. L'entrée en scène de Rodolphe redonne un instant à l'oiseau son prestige romantique, en le faisant symboliser les âmes sœurs qui cherchent à se réunir. C'est dans la scène des comices. Rodolphe dit « Elles essaieront cependant, ces âmes sœurs, elles essaieront cependant, elles battront des ailes, elles s'appelleront. » Phrase poétique, là encore, qui retentit dans l'ironie d'une mention et qui finira dans le dictionnaire des idées reçues à l'article « Oiseau ». Désirer en être un et dire en soupirant « des ailes » marque une âme poétique. Dans la même scène des comices, les mots de Rodolphe sur la réunion des âmes entrent en résonance avec la description par le narrateur de l'étreinte des mains. C'est la citation numéro 8. Rodolphe lui serrait la main et il la sentait toute chaude et frémissante comme une tourterelle captive qui veut reprendre sa volée. L'image marque d'emblée la dissymétrie dans la relation entre les deux personnages et elle anticipe la suite de l'histoire. Elle dit déjà que l'adultère ne sera pas libération. C'est la deuxième fois que l'oiseau reçoit un nom dans la série imagée. Aux pigeons succède leur cousine, la tourterelle, dont on dit qu'elle roucoule, mais aussi qu'elle gémit. La scène de l'adultère va prolonger ce décalage entre le récit d'un nouveau départ et l'image d'une souffrance. Comme si l'image anticipait sur la suite de l'histoire, comme pour l'image du bateau fiacre tombeau. Voici en effet des colibris qui volent en perdant leurs plumes. Curieuse image réaliste d'un complexe d'Icare, c'est la citation numéro 9. Ça et là, tout autour d'elle, dans les feuilles ou par terre, des taches lumineuses tremblaient, comme si des colibris en volant eussent éparpillé leurs plumes. Rien de dramatique, en un sens, dans cette comparaison. Elle est simplement là, en passant, devant les yeux d'Emma, si l'on ose dire, intersigne indéchiffrable. N'était pour le lecteur la série, le cumul d'occurrences. Et telle est ici la double motivation de la comparaison. Elle porte un sens contextuel, cette belle image d'artiste pour signifier un effet de lumière, style impressionniste de Flaubert, mais elle prend aussi sens dans la série, image à suivre. Et cette suite ne tarde pas. Emma se retrouve bientôt dans une double impasse. Après les mécomptes de l'adultère, pas de retour possible vers l'amant, de l'amant vers le mari. On ampute Hippolyte, citation numéro 10. Elle se rappela tous ses instincts de luxe, toutes les privations de son âme, les bassesses du mariage, du ménage, ses rêves tombant dans la boue comme des hirondelles blessées. L'oiseau est rendu au terrestre, englué dans la matière. L'oiseau migrateur qu'est l'hirondelle n'ira pas ailleurs. Et Emma aura beau emprunter l'hirondelle d'hiver pour retrouver Léon, cette hirondelle ne fera pas le printemps. Hiver, mauvais conducteur onirique. Troisième séquence. Quand Léon reparaît, l'image de l'oiseau ne va pas retrouver sa vigueur. Son potentiel de rêverie est déjà épuisé. Et les nouvelles occurrences ne feront que reproduire en accéléré la série précédente avec la fadeur d'un écho. L'histoire d'Emma se répète. Tout recommence donc à l'opéra. L'image se retrouve alors encore une fois rattachée à ses origines romantiques à travers Walter Scott et Donizetti. La flûte gazouille et Lucie, âme poétique, demande des ailes. Citation 11. On entendit une flûte qui faisait comme un murmure de fontaine ou des gazouillements d'oiseaux. Lucie entama d'un air brave sa cavatine en sol majeur. Elle se plaignait d'amour, elle demandait des ailes. Emma, de même, aurait voulu, fuyant la vie, s'envoler dans une étreinte. Dans l'image, il y a toute la nostalgie du sublime, fût-ce au prix du malheur contre le commun. Emma s'identifie à une héroïne dont elle sait l'histoire tragique. Mais, quelle que soit l'énergie rêveuse d'Emma, constatons que ce désir manque d'amplitude. Les formules tournent court, demander des ailes, s'envoler. Le désir se perd dans des manières de parler, n'arrive pas à se préciser. Dès lors que la cavatine soit en sol majeur, constitue une géniale notation de l'irrémédiable pesanteur. Nous voilà retournés vers la terre. Dans l'histoire avec Léon, l'oiseau a du mal à s'incarner. À Rouen, sur le lac, il n'apparaît que sous la forme métonymique d'une aile. Emma est pourtant en train de chanter, et l'on eût attendu une comparaison plutôt avec le chant des oiseaux, mais ce n'est pas le cas, citation 12, « Sa voix harmonieuse et faible se perdait sur les flots, et le vent emportait les roulades que Léon écoutait passer, comme des battements d'ailes autour de lui. » L'image n'inspire plus l'écriture, et la série va se clôturer sur une note grandiloquente, en écho lointain à l'oiseau au plumage rose dans les ciels poétiques. Mais à présent, le vol ne peut se dire qu'au conditionnel passé, avec trois compléments de lieu qui gardent l'imprécision d'une utopie. Elle aurait voulu, s'échappant comme un oiseau, aller se rajeunir quelque part, bien loin, dans les espaces immaculés. Il s'agit d'Emma, désabusée, dans sa relation avec Léon et juste avant d'apprendre la saisie d'huissier. La catastrophe commence et l'image de l'oiseau disparaît alors du final, à la place des oiseaux réels, si je puis dire. Le récit réaliste retourne à la logique métonymique des oiseaux réels et symboliquement univoque. C'est la dernière citation. « La nuit tombait, des corneilles volaient ». Alors là, la disposition typographique est importante, c'est une phrase paragraphe qui se détache, et c'est un décasyllabe classiquement césuré, 4 plus 6, la nuit tombait, des corneilles volaient. Le destin d'Emma se clôt ici, dans cette diction presque solennelle, avec la corneille, qui est un charognard, et la phrase suit immédiatement une image de sang, comme les blessés en agonisant sentent l'existence qui s'en va par leurs plaies qui saignent. Et la corneille est un oiseau qui s'abat, la terre est son élément. L'histoire d'Emma est décidément terminée. Un mot de conclusion sur ces images suivies. Intentionnellement suivies, qu'importe. Le stupéfiant reste la formidable cohérence des signes à l'œuvre dans le texte flaubertien. Image du navire commentée par Manfred Hart, image de l'oiseau ce matin. On pourrait penser aussi aux valeurs métaphoriques du motif de la nourriture qu'a analysé Jean-Pierre Richard, ou du motif du chaud et du froid analysé par Starobinski. Par quelques bouts que l'on prenne l'écriture flaubertienne, elle paraît construire comme cela des systèmes de symboles extraordinairement cohérents, et l'on comprend que le structuralisme est affectionné de prendre Flaubert pour exemple. L'imagination flaubertienne n'est pas la folle du logis, elle est folle de logique.
Alors peut-être on pourrait discuter de ton exposé en même temps que vous revenez à la table pour une discussion générale. Alors je te remercie beaucoup Philippe de cette très belle exposé, et ça montre dans le détail à la fois la façon dont Flaubert remotive des clichés et aussi la façon dont ce qu'il dit dans sa correspondance, il le fait dans son roman, c'est-à-dire la façon dont une phrase est liée à l'ensemble et à la composition. Quand on sait la façon dont il a corrigé les métaphores, supprimé des images, celles qu'il a laissées sont des images vraiment structurelles et qui portent dans la phrase un devenir du récit. Et ça, tu l'as vraiment très très bien montré. Alors peut-être Guy Laroux et Jacques Neff veulent revenir à la table. On peut se donner jusqu'à midi et demi, peut-être maximum pour midi 20, midi et demi, pour quelques interventions d'ensemble sur vos remarques et vos exposés. Moi, j'y vois le point commun du poids des micro-lectures, de l'importance des micro-lectures et de l'importance de ces micro-lectures, non pas en relation avec la description, c'était plutôt ce qu'on aurait attendu des micro-lectures, comment une description se construit, etc., mais la façon dont vous mettez en valeur quelque chose qui a été thématisé par Rancière dans tout ce que vous lui avez cité, la relation entre l'écriture du sensible et le récit. Donc peut-être on pourrait repartir de là, et puis aussi, je ne sais pas s'il y aura une réponse, mais se demander pour nos étudiants quelle piste reste à explorer sur cette question du récit. Je pense qu'il y a des micro-lectures à développer, mais je m'arrête là, je pose la question et peut-être la salle intervient et vous-même vous avez à réagir sur les exposés de cette table ronde. Pour qu'elle soit ronde,
Faut de l'imagination.
Il faut que ça tourne. Non, je vois la cohérence très bien, mais je veux dire, c'est bien aussi de discuter Bruna Donatelli.
C'est pas une question, mais lorsque vous dites qu'il y a une concentration dans le paragraphe, plus le paragraphe est concentré et plus il y a de la prosodie, du rythme ternaire, ces phrases qui sont ce que je pense François Gaillard disait à propos de poème en prose. C'est pas poème en prose, mais c'est cette prosodie que l'on ressent très très.
Donc,
une question. Oui, non,
ce n'est
pas une question, c'est-à-dire,
c'est seulement. Reviens là-dessus. D'ailleurs, ce qui frappe de plus en plus, c'est qu'effectivement, de Madame Bovary à Bouvard et Pécuchet, effectivement, le lien entre Bouvard et Pécuchet et Trois Contes est essentiel. Il y a cette sorte de réduction, quelquefois très vive. C'est arrête contre arrête, hein, paragraphe, paragraphe. C'est-à-dire que la subjectivation, mais qui est en fait la construction interne d'effets sensibles, de connotations, de production d'images qui n'ont d'existence que dans la construction qu'on peut en faire. Hein. C'est encore une fois, ce n'est plus une description, c'est une sorte de fantasmagorie ponctuelle, moment par moment. C'est à la fois, la juxtaposition est toujours très efficace, et en même temps, la réduction me paraît, enfin, l'écriture de Bouvard et Pécuchet est sèche, très sèche. Or, en même temps, c'est ce qui ouvre la prose narrative moderne à des développements qui, eux, vont être des développements associatifs longs, complexes, par exemple, chez Proust. Et donc, ça, c'est tout à fait intéressant. Et alors, c'est vrai aussi que cette réduction engouffre ce qui pourrait être des longs développements narratifs, ça, c'est certain. Mais d'ailleurs, pour
narratif et descriptif.
Et descriptif, narratif et descriptif. Parce mais que... ce sont des descriptions qui ne sont pas là pour rejoindre, peut-être essayer de relier les choses, à la fois les images, à la fois les prendre un thème comme les chaussures, enfin comme le sol. La pertinence est extraordinaire. Et surtout, on voit très bien comment c'est du récit. C'est-à-dire, cela crée du narratif. Et comme le signalait Françoise, les chaussures, ça m'a frappé, c'est vrai qu'il y a une, au fond, une version sémiotique à la Balzac. Hein, il y a les chaussures riches, les chaussures pauvres, les chaussures...
À ce motif, vous eussiez reconnu.
Voilà, à ce motif, vous eussiez reconnu. Voilà, chez Balzac, c'est identique. Ici, à cette bottine, vous saurez reconnaître. Hein, voilà, exactement. Donc, c'est une implication. Alors, plutôt de la subjectivation, c'est de l'implicitation extraordinaire. L'implicitation sociologique, analytique, émotive, sensorielle, qui sont implicitées, hein, dans des effets. De même, le fait que les images, si on suit, soient elles-mêmes le récit, avec la gravation, le moment sombre, le moment espérant, il y a une configuration qui en effet va vers une narration par d'autres moyens, hein, de tout autre moyen que les moyens classiques du récit. Je trouve que c'était très... les trois ensemble, ça devrait être...
Ça fait.
Je voulais simplement à propos des pieds et des pas, dans Salambo, du sol, une marche d'omnix entourait un bassin ovale. De fines pantoufles en peau de serpent étaient restées sur le bord avec une buire d'albâtre. La trace d'un pas humide s'apercevait au-delà. Tes senteurs exquises s'évaporaient. C'est de la terre au ciel. Hein. C'est une concentration. Voilà ce que j'appelle la concentration esthétique. Et c'est presque brutal. En même temps, profond.
Mais les pas humides, ça évoque les pieds nus.
Et, ah ben, c'est sûr, tout ça. Le passage, elle est, là, elle est couchée là-bas. Hein, faut pas oublier. C'est Matou en train d'aller dans la chambre de Salambo. Donc les pas humides, c'est la trace. Alors en plus, c'est du récit. C'est le flair. Hein, je vais vers Salambo. C'est une subtilité fabuleuse.
Philippe, tu voulais intervenir ?
Oui, c'était simplement une incidente à propos de ce que disait Françoise sur... Enfin, sur le pas balzacien, il y a des moments aussi chez Balzac où il y a cette présence émotive. Je pense au début de la recherche de l'absolu, quand on entend le pas lourd de Balthazar Claës descendre l'escalier. Et à ce moment-là, le narrateur rêve sur l'identité de ce personnage, la lourdeur du pas, dit qu'on a affaire à un grand penseur. Enfin, on a une sorte de délire qui part à partir de cette petite sensation sonore.
Guy Laroux.
Et on pourrait ajouter Presté avec Balzac, oui. Je n'ai pas voulu dire que les prédécesseurs réalistes de Flaubert avaient ignoré... Non, au contraire. Rappelez-vous le début du curé de Tours, tous les malheurs du curé de Tours, ça commence par l'histoire de pieds mouillés. La porte fermée par la méchante mademoiselle Gamard font que le curé a les pieds mouillés, et finalement c'est presque le déclencheur du récit, ces fameux pieds mouillés. Autre scène assez remarquable, c'est dans La Rabouilleuse, c'est lorsque Philippe Brideau, alors c'est très intéressant comme scène, pose les pieds chez son oncle pour y revendiquer ses droits, et il fait exprès de porter des chaussures trouées, d'où suinte l'eau. Et Flaubert marque bien la place de ce qui est bien une intrusion territoriale. Et le regard bien déplacé vers le bas, mais ce n'est pas le même genre d'attention.
Gisèle Sévinger.
Les images racontent une histoire, on vient de le voir avec le pied... avec l'oiseau, c'est tout à fait convaincant. Elles permettent de dire des choses sur le plan sociologique. Et puis je pense aussi qu'elles suggèrent des choses sur l'inconscient. Et je crois que c'est frappant dans l'exemple de Philippe, le numéro 11. Emma, de même, aurait voulu, fuyant la vie, s'envoler dans une étreinte. Je crois qu'il y a là une ambiguïté entre désir d'érotisme et désir de mort, hein, qui se dit dans cette image, dans ce désir d'Emma d'être comme un oiseau qui s'envolerait dans une étreinte. Ouais. Fuyant la vie.
Oui, fuyant la vie, oui, il y a cette formule, effectivement. Ouais.
D'autres, excuse-moi Françoise, mais comme d'autres interventions, sinon Françoise Gaillard a demandé la parole, mais il y a peut-être dans l'assistance des gens qui ont Juliette, vous avez travaillé, tu as travaillé sur les comparaisons, si ça ne te...
J'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Non, moi, ce que ça m'avait évoqué, c'est que finalement, entre le sol et l'oiseau, là, j'ai trouvé qu'il y avait un mélange et des contrepoints comme ça, et très intéressant, parce que finalement, ces oiseaux qui sont un peu empêtrés, voilà, il y a comme un refus d'envol, dont parlait Philippe. Et finalement, Flaubert qui s'intéresse à ces substances ou à cette matière qui s'accroche, par exemple au crin, etc., j'ai l'impression qu'il y a quand même, finalement, très souvent, oui, cette manière de refuser, oui, ce qui serait de l'ordre, finalement, de l'aérien pur, en fait. Je me suis demandé si ça t'intéresse justement pour le sol, pour ce qui est tangent. Sur le contact du pas avec le sol, s'il n'y avait pas un refus de l'aérien pur.
Il faudrait regarder les descriptions au fond des ciels flaubertiens. Je crois qu'il y a peu d'oiseaux dans les... Il y a des nuages, il y a le vent qui passe, il y a des effets de lumière, mais il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, finalement.
Il y a peut-être quelque chose... Un niveau intermédiaire entre la terre et le ciel, le plein ciel, si j'ose dire, c'est presque Victor Hugo. Il y a ce qu'on a un petit peu de mal à nommer, mais les Flaubertiens ont été très sensibles à ça, et mon voisin à gauche en particulier, c'est ce qui enveloppe les personnages, l'atmosphère. Alors là, c'est toujours le mot, et un mot de peintre d'ailleurs, en parenthèse. Et il y a, dans les prépositions, si vous avez vu les exemples que j'ai donnés, qui ont été donnés, qui apparaissaient aussi dans ce qu'a montré Jacques Neff et Philippe, l'importance des prépositions. C'est pour ça que j'ai parlé du mot de topologie. C'est une approche qui a dû être menée par d'autres. C'est un rappel que fait Serre dans un de ses textes. Il dit que l'origine de la topologie, c'est, dit-il, l'analyse situe et par le biais des prépositions. Et ça nous engage à être très attentifs à des petits mots comme dessus, dessous. Hein. Et chez Flaubert, et ça apparaît d'ailleurs dans deux des exemples de Philippe, il y a plusieurs reprises à côté d'eux. Alors à côté d'eux, c'est quoi? C'est ce qui enveloppe un être. Et donc, on est à ce niveau qu'on a du mal à situer, qu'on dira atmosphérique. C'est aussi les fonds sur lesquels est souvent saisi, et dans de très belles images, Emma. Ces fonds, alors fonds d'air. Et là, il faudrait refaire le lien, toujours difficile, avec la peinture, bien sûr. Et ça me ramènerait d'ailleurs à la question de la peinture. À mon avis, cette histoire du dessus-dessous, c'est aussi une des questions que pose le fameux tableau manifeste, comme on dit, de Courbet. Dans Courbet, le fameux enterrement ornant. Qu'est-ce qu'on voit en premier, quand on est devant? Les pieds, la terre, c'est voulu, mais il y a tout de même un ciel aussi dans ce tableau. Mais bon, le tableau est plutôt construit pour qu'on voit la terre. Et c'est pas que je sois obsédé par les pieds et les pattes du chien, vous savez. Bon, l'atmosphère, bon, je sais pas. Si...
Il y a même bon, François Gaillard, et après oui, l'atmosphère,
c'est plutôt de l'ordre de la glèbe. Mais sur Courbet, je ne serais pas tout à fait d'accord avec
vous. Alors, je n'ai pas dit que c'est le même combat. Hein.
Mais peu importe. Ce que tu viens de dire sur l'atmosphère, qui n'était pas l'objet premier de mon intervention, est tout à fait juste. D'ailleurs, Rancière a été très sensible à ce qu'il va appeler la vibration de la matière chez Flaubert. Et autant je suis en désaccord avec lui sur certains points de ses analyses, là, je crois que c'est tout à fait important. Il a vraiment senti et fait comprendre ce qu'était cette vibration de la matière dans certains moments du texte flaubertien. Non, moi je voudrais revenir sur ce que tu nous as dit, sur cette question des registres métaphoriques. Anne a très bien rappelé que Flaubert essayait d'éliminer le plus possible les métaphores par rapport à un premier jet, quand les corrections sont plutôt de l'ordre de la suppression, et suppression surtout, moins sans doute, mais vous connaissez les manuscrits infiniment mieux que moi, qui les connais à peine, je les connais uniquement par vos travaux, je ne suis jamais allé les lire ou les regarder, mais plus les métaphores que les métonymies. Les métonymies sont moins supprimées. Mais je reste aux métaphores. Finalement, ces registres métaphoriques sont très intéressants. Bon, ils constituent des réseaux, tu l'as bien dit, ce qui constitue aussi une sorte de sous-texte flaubertien. On pourrait lire aussi un autre texte sous le texte à partir de l'entrelacement de ces réseaux métaphoriques. Et ce qui m'intéresse pour notre propos, pour le propos de ce séminaire, c'est que, alors que l'on pourrait croire, et c'est la raison pour laquelle Flaubert systématiquement, enfin, essaie systématiquement d'en éliminer le plus grand nombre, par peur justement de se livrer à de l'expansion, hein, cette espèce de peur qu'il a de la boursouflure, de l'expansion, et donc la métaphore serait de l'ordre de l'expansion, on s'aperçoit que les métaphores, dont tu as ici rendu compte, participent de l'économie du récit, parce que, de l'économie narrative, parce que, au fond, ce sont des registres très connus. Hein. Ce sont des registres dont le symbolisme fait partie, je dirais, de l'encyclopédie du lecteur. L'oiseau, etc. C'est le cliché, pour ne pas dire le cliché. Alors, à partir du moment où c'est de cet ordre-là, bien loin d'être de l'ordre de la boursouflure, ça économise d'une certaine manière des descriptions plus longues ou des analyses psychologiques qui viendraient interférer, tu vois. Et donc, il y a là, me semble-t-il, lorsque tu nous as montré, une sorte de paradoxe. C'est quelque chose qui vise non pas à l'expansion, mais au fond à l'économie. Pas besoin de se livrer ce que Flaubert détestait, et qu'il ne pratique pas d'ailleurs, qui aurait été une sorte d'analyse psychologique de ce que ressent, etc., au fond de son âme, etc., le personnage. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça.
Partiellement, mais enfin, pour les réseaux d'images, peut-être, mais il y a aussi, oui, par exemple, les comparaisons grotesques, elles ne relèvent pas d'une tradition, non, là, pour le coup, et il y en a beaucoup. Hein, donc,
non, mais elles ne sont grotesques que parce que le lecteur a en tête les clichés qui sont liés à l'oiseau ou au vol. Par exemple, lorsque ça tombe, faisant dans l'air des demi-cercles comme un oiseau, allait avant de tomber, s'accrochait au crin mal soigné, etc., la vieille jument, ça ne fonctionne que parce que le lecteur a en tête ce qu'il y a de romantique, hein, dans ce vol comme ça, des fleurs ou des petits brins de plantes que Emma projette sur son mari au moment où il part travailler. S'il n'a pas ça, on ne voit pas l'ironie crue et ni la cruauté qu'il y a dans ce passage.
Ouais, celui-là, bon, l'image me paraît pas tellement grotesque. C'est la fin qui est grotesque.
Non, non,
bon, la jument, enfin la jument qui prend.
Oui, c'est. Si tu n'es pas, ouais, dans l'idée que l'envol a quelque chose de romantique, etc., tu ne peux pas sentir la cruauté du final, de la chute.
Ouais. Alors, ce qui est subtil quand même dans ces réseaux d'images, c'est quand même qu'il faut arriver à mettre en série les images. Hein, ce qui, à première lecture, on ne risque pas d'apparaître. Hein, on se demande, ça me semble un peu délirant d'ailleurs parfois la manière dont Flaubert, comme ça, travaille dans le détail ses textes. Hein, c'est des petits détails quand même qui risquent d'être inaperçus.
De relire toute une série de pages comme un tableau pour pouvoir écrire une page. Donc, Il y a cette conscience spatiale et temporelle de ces manuscrits. Pierre-Marc de Biasi.
Oui, une question que je vous pose sérieusement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de modélisation de ces métaphores ? Tu les rapportes toutes au narrateur, ou bien est-ce que, par exemple, les métaphores ne sont pas comme une espèce de monologue intérieur qui renvoie à l'état de pensée des personnages.
Oui, oui, oui. La sixième, par exemple, hein, il y a un bivocalisme. C'est une phrase narrative, mais il est évident que ça renvoie, oui, à un monologue intérieur. Si on prenait la typologie de Dorit Cohn, ça serait un psychorécit à pôle consonantique, hein, donc un psychorécit qui se fait dans les termes qui empruntent au langage du personnage. Hein. Bon, il faut entendre, l'ironie est là dans ce bivocalisme.
Oui,
peut-être
numéro 10 aussi,
la déploration, quelque chose comme... Oui, oui. Oui, puisqu'il y a « elle se rappela », donc on peut, effectivement, on peut l'entendre comme un style indirect, presque.
Ouais. De ces images, qui se trouvent par l'écriture transformer en autre chose, participe probablement d'une structuration du personnage. C'est qui passe à travers l'esprit stéréotypé par, médiatisé par des images qui faites d'Emma, par exemple, ou de
Jaël. Et après, c'est sûr.
Moi, il me semble que ce serait vraiment intéressant de trouver une règle qui permettrait d'évaluer la proximité entre une sorte de monologue intérieur et l'émergence des métaphores, dans la logique de ce que tu nous as raconté, qui est tout à fait passionnant. Qu'est-ce qui, au fond, appartient en propre au narrateur? Qu'est-ce qui peut être interprété comme une forme d'émergence de la pensée stéréotypée ou clichée des personnages? Et qu'est-ce qui appartient à la langue aussi comme une forme?
Oui, 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 il y a aussi effectivement ce problème. C'est une image, comme on le disait, bon, qui appartient à l'inconscient collectif. Hein, de même pour l'image du navire. Bon,
ce sont des clichés de la langue aussi.
Enfin, oui, des clichés, mais bon, qui peuvent quand même avoir aussi un poids. Ça ne les empêche pas de signifier.
Bien sûr, mais le cliché n'est pas forcément... Ouais.
Des lieux communs au sens, rhétorique. Voilà.
C'est le prolongement exact de ça. C'est la question de la langue et l'écoute. Et c'est tout à fait fascinant. Par exemple, elles sont liées à alors un personnage plus ou moins variable, mais en même temps, le récit serait presque un écho. La 8 et la 13 se répondent exactement. Rodolphe lui serre la main et il la sentait toute chaude et frémissante comme une tourterelle captive qui peut reprendre sa vallée. C'est l'une des rares qui est attribuée
à Rodolphe,
à un autre personnage que Emma. Il la sentait toujours. Et du coup, elle aurait voulu, s'échappant comme un oiseau, aller se rajeunir quelque part, bien loin dans les espaces immaculés. S'échappant comme un oiseau est presque une réponse à ce moment qui a été le piège, c'est-à-dire celui où Rodolphe... Donc il y a une sorte de précision, alors, qui est la mémoire de l'écriture, qui est la relecture, qui est évidemment largement inconsciente, mais une sorte de précision extraordinaire dans ses relations, puisque elle a été prise ce jour-là. J'ajouterais, alors on parle des stéréotypes, bien sûr, ces images. Tu as employé l'expression de comparaison louche, j'aime bien ça. En effet, elles sont toujours un peu bancales. On sait que Proust trouvait qu'il n'y avait pas une belle métaphore, pas une belle comparaison chez Flaubert. En effet, elles sont toujours un peu boiteuses, un peu lourdes. Et y compris dans la question du vocabulaire, tombant dans la boue comme des hirondelles blessées. Il y a un objet de maison de la deuxième moitié du 19e fréquence, c'est un bronze d'oiseau blessé, d'oiseau mort. Hein, c'est un objet qu'on trouve comme ça vers les années 1860-70, une hirondelle blessée en sculpture, en bronze, dans les bronzes animaliers. Comme si cet objet avait eu une capacité particulière en ce temps. Donc Flaubert habite littéralement une imagerie.
L'oiseau mort, bon, il y a aussi Greuze qui a fait plusieurs tableaux, la jeune fille avec l'oiseau mort.
Le thème était, semble-t-il, si important de façon familière qu'il existe ces petits oiseaux blessés sur socle de marbre qui se vendaient, qui étaient une forme de la sculpture animalière. Oui, donc là, il y a quelque chose que Flaubert habite littéralement.
Mais est-ce que c'est tout, parce que ce thème qui est Greuze, etc., est mièvre, si tu veux, dans sa représentation picturale ou dans sa représentation sculpturale. Or, je pense que le caractère mièvre de cette image n'est plus, je ne sais pas si vous serez d'accord, ne se retrouve plus, me semble-t-il, dans le texte de Flaubert, non?
Alors chez Greuze et les mièvres, en même temps, il a une valeur allégorique, puisque c'est l'image du viol. Diderot le commente. Oui, bon.
Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des images qui circulent entre les personnages et entre les romans. Alors, c'est le cas en particulier de l'exemple-ci de Philippe. Avait suffi à lui faire croire qu'elle possédait enfin cette passion merveilleuse qui, jusqu'alors, s'était tenue comme un grand oiseau au plumage rose, planant dans la splendeur des ciels poétiques, donc pour la passion idéalisée. Et il me semble que c'est à peu près la même image qu'on retrouve pour le rêve du divin lorsque Félicité...
Oui, à la fin d'un cœur simple, ouais, le perroquet. Ouais. Dans la version écrite, j'ai fait le rapprochement entre les deux. Oui, Jacques mentionnait le nom de Proust et ça nous ramènerait à la remarque de Pierre Marc, puisque quand Proust dit qu'il n'y a pas une seule belle image chez Flaubert, il ajoute elles sont du niveau de celles que pourraient trouver ces personnages.
Oui, c'est ça.
Et, mais, ça s'expliquerait justement par ce bivocalisme.
Je pensais à autre chose, et là, quand on peut analyser la question, même du point de vue épistémologique, parce que. Les animaux sont souvent, servent à faire des types de métaphores, sauf convoqués par exemple dans le cas de Félicité, comme l'école naturelle dans laquelle elle a appris hein, les animaux, la vérité. Et donc elle va instinctivement en Félicité parler de son expérience à travers les métaphores naturelles que sa vie à l'accompagne. Lui a apporté à faire comprendre comme une leçon de choses, comme une leçon sur la vie. Et j'ai l'impression que Flaubert suit de très près ça. Peut-être parce qu'il est aussi. Enfin, c'est un citadin, mais c'est aussi un homme de la campagne. Et la pression dans le langage populaire des petits bourgeois, disons, de la nature, par exemple, sous forme de cliché, sous forme de. Pas seulement Félicité, peut-être se traverse une partie de son écriture. Ça peut être une piste possible.
À propos de bestiaires, de scènes d'amour, il y a un oiseau auquel on aurait pu s'attendre, c'est le rossignol, mais il n'apparaît, j'imagine, tu as vérifié, il n'apparaît, j'imagine pas, en revanche...
Il apparaît seulement dans les lectures d'Emma, hein,
voilà donc, ça.
Elle l'a trouvé dans les livres, voilà. Mais il ne se retrouve pas dans le roman de Flaubert.
Il est dans la scène d'amour de l'élève de Flaubert, de Maupassant, quoi, dans la partie de campagne, il y a le fameux rossignol qui chante, qui est dans un rapport, curieux pour revenir à métonymie, métaphore.
Au moment de l'orgasme,
voilà,
c'est ça.
C'est un rossignol à la fois métonymique, proche en proche, et métaphorique. C'est assez remarquable comme page d'ailleurs.
Ouais,
et là, c'est un rossignol assumé, bon, qui vient de loin lui aussi, ben, au moins de Shakespeare et peut-être d'avant encore.
Ouais.
Et c'est assez curieux que. Et j'imagine que Maupassant ne pouvait pas mettre des colibris dans cette fameuse scène. C'était interdit, les colibris.
Ça devient l'oiseau de Casanova dans Fellini.
Voilà.
Bien, ça s'arrête sur ces oiseaux. Merci à tous, merci à vous d'abord, et puis. Aux intervenants dans la salle. On se donne rendez-vous, si vous voulez bien, le samedi 19 novembre, donc dans un mois, avec Cornelia Wild, qui est de l'Université de Munich, et qui nous parlera de Flaubert et la voix des autres. Et la voix des autres.
Ah, j'ai beaucoup de la trace,
Il y a des chaussures
dans ce labo,
il y en a dès la première
image. Ah, merci. Non, c'était extraordinaire.
Il y a des coutures,